Je remercie Stéphane de m'avoir invité cet après-midi pour annoncer le message de l'Évangile. Et j'ai répondu avec un grand plaisir à cette invitation, à ce rendez-vous dimanche après-midi à 15h, pour pouvoir chanter des beaux cantiques et partager bien sûr ce beau message d'espoir et d'espérance. Vous avez bien fait de répondre présent à cet appel, à ce rendez-vous. Et je crois que dans la vie, chacun, on est confronté à des rendez-vous un peu particuliers. Par exemple, le premier rendez-vous où nous sommes confrontés, c'est la naissance. On ne l'a pas choisi, ce sont nos parents qui l'ont choisi. Ce rendez-vous s'est peut-être plus ou moins bien passé, surtout pour la maman. Le père, il est souffrant de voir la mère hurler. Et c'est le premier rendez-vous, et celui-là, nous avons été fidèles avec la vie. La vie passe, le chemin passe, et nous sommes confrontés également à d'autres rendez-vous. Moi, il y a un rendez-vous qui m'a toujours marqué dans mon enfance, c'est le rendez-vous du premier jour de l'école. Bon, j'étais jeune, hein. Je suis toujours jeune. Hein. J'avais 6 ans, la rentrée, pas la maternelle parce que je ne m'en rappelle pas trop, mais à 6 ans, je me rappelle de ce premier rendez-vous avec la grande école, pour ainsi dire, alors que c'est le CP. Et je voyais mes parents tout excités. On m'a acheté des belles chaussures, on m'a acheté des vêtements, une belle chemise. Je veux que tu sois le plus beau, mon fils. Bien sûr, on n'oublie pas la coiffure. Vous savez, l'arrêt là, avec la brillantine. Et allez. Et on voit que tous nos parents sont tout excités. Mais en même temps, on voit la mère qui a le cœur un peu brisé de laisser son enfant, surtout quand il pleure. Vous savez, moi j'aime l'école, comme Tom Sawyer, surtout quand elle est loin, quoi. Ce rendez-vous m'a toujours marqué, et il me marque encore aujourd'hui. Puis, ça passe, il y a des rendez-vous. Pour certains d'entre nous, nous avons grandi, et bientôt, le moment exaltant de ce qui est convenu d'appeler le premier rendez-vous. Et là, je m'étonne que la pièce préférée de la maison, c'est la salle de bain. Et on bat les femmes concernant le temps qu'on y passe. Et quand on sort de la salle de bain, je me souviens toujours aussi également, mes parents me disent, mais où tu vas, oh? Ça sent le parfum à 20 km. Le rendez-vous avec notre bien-aimé. Ça marque un tournant également dans notre vie. Et puis, il y a également dans la vie, ce que j'appellerais des rendez-vous ratés. Nous n'avons pas été fidèles. Ces rendez-vous, vous savez, pour moi, en ce qui me concerne, je parle toujours de moi, excusez-moi, mais ne vous inquiétez pas, je vais parler de Jésus. Je me rappelle toujours également de ce premier rendez-vous marquant avec le dentiste. Le fameux dentiste. Vous savez, les amis, c'est super, les amis. Hein? Wow, j'ai mal aux dents, il faut que j'aille au dentiste. Où c'est que tu vas au dentiste? Chez un tel, je ne cite pas de nom. Quoique, je suis tranquille, c'est à Nîmes. Il me dit, tu vas chez lui? Mais c'est un boucher, celui-là, n'y va pas. Et je vous garantis, je me rappellerai toujours de ce jour-là. Je peux même vous dire le jour de la semaine que c'était. C'était mercredi matin. Et je vais chez le dentiste, en transpirant. Je me mets à la salle d'attente et j'attends. Oui. Et à ma grande honte, ce dentiste, il m'attend toujours. Ne vous inquiétez pas, je suis vacciné. Hein. Depuis, on m'a arraché 2 dents et j'ai 3 couronnes. Hein. Mais bon, ce que j'appelle les rendez-vous ratés. Mais j'aimerais vous lancer une question cet après-midi. Parce que Dieu vous lance une invitation cet après-midi. Dieu vous lance un rendez-vous particulier. Un rendez-vous particulier avec le Fils de Dieu. Un rendez-vous particulier avec la paix, la joie, le bonheur. Cet après-midi, le Seigneur vous lance un rendez-vous avec la guérison. Mais quelle va être votre réaction? Quelle va être votre décision? Puisque le Seigneur, lui, il est fidèle à ses rendez-vous. Ce n'est pas une question de dentiste ou quoi que ce soit. Le Seigneur est là présent au milieu de nous cet après-midi. Du moment où on a prié, du moment où on a chanté, du moment où on a ouvert la parole, le Seigneur est fidèle et il est venu dans ce lieu. Et il veut avoir un tête-à-tête avec toi cet après-midi. Mais toi, quelle va être ta réaction face à ce tête-à-tête que tu vas avoir avec le Seigneur, que tu as avec le Seigneur en ce moment? Parce qu'il est présent, parce qu'il est ressuscité. Et cet après-midi, Dieu a des projets de bénédiction pour toi. J'aimerais quand même ouvrir la parole de Dieu et vous parler de personnes qui ont eu ce privilège d'avoir un tête-à-tête avec le Seigneur. J'aimerais parler de trois personnes, trois cas et trois réactions différentes. La première personne, on la trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4 à partir du verset 7. Un récit bien connu de ceux qui ont la parole de Dieu. Dans l'évangile de 4, chapitre, évangile de Jean, pardon, chapitre 4, verset 7, il nous est dit « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et on va aller un peu plus loin dans le verset 25 et 26. La femme lui dit, de ce même chapitre, hein, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Ici, dans ce texte, on voit un rendez-vous un peu spécial. On voit une femme samaritaine aller puiser de l'eau. Cette femme va puiser de l'eau à midi, alors que la coutume voulait qu'on y aille de bon matin. Dans ces pays chauds, il vaut mieux aller de bon matin ou le soir pour éviter, excusez-moi, j'ai parlé comme dans le sud, le cagnard. Et cette femme, en fin de compte, elle y va à midi pour puiser de l'eau. Cette femme, quand on retrace, on devine un peu sa vie. C'est une femme qui va puiser de l'eau, mais on sent dans ce texte qu'il y a comme une tristesse dans son cœur. Cette femme était rejetée, une rejetée de la société, une rejetée de son village. C'est pour ça qu'elle allait à midi chercher de l'eau. Elle aurait pu y aller avec toutes les femmes le matin. Vous savez, les femmes, ça aime bien parler. Hein. Il n'y a pas que les hommes qui aiment parler. Hein. Mais non, elle voulait éviter les regards des autres. Parce qu'elle sûrement qu'elle se sentait accusée par les femmes de son village. Quand on retrace sa vie, on voit que cette femme a subi beaucoup d'échecs. Échecs sentimentaux. Elle va avoir 5 maris. 5 déceptions. Son dernier n'est pas son mari, mais son compagnon. Et à l'époque, vous savez, parce qu'aujourd'hui, c'est presque plus tabou, mais à l'époque, c'était tabou. Et sûrement que les femmes du village, quand elles voyaient cette femme, elles devaient dire avec la grande discrétion, « Ciel, ciel, tu sais cette femme-là, 5 maris, 5 échecs. » Une insatisfaite de la vie, elle devait subir les regards, peut-être même méchants, des autres femmes. Et cette femme, quand on lit ce texte-là, on sent qu'il y a une tristesse. Elle veut éviter la foule, elle veut éviter les gens du village. Elle va à midi, et là, elle va faire une rencontre. On aurait pu dire le fruit du hasard. À midi, elle va rencontrer Jésus-Christ. Cet après-midi, il est 15 heures, tu peux rencontrer Jésus-Christ. Un peu plus de 15 heures. On aurait pu dire le fruit du hasard, mais Dieu l'attendait. Dieu avait un plan pour cette femme. Dieu avait un rendez-vous divin pour cette femme. Comme cet après-midi, il a un rendez-vous divin avec toi. Cette femme, sa vie, c'était que échec, échec. Et peut-être que ta vie, quand tu retraces ta vie, tu te dis, mais je n'ai rien eu de bon. Que des échecs, que des échecs. Il y a comme une tristesse dans ton cœur. Mais tu peux ressortir de ce lieu complètement transformé par la puissance de Jésus. Alléluia. Parce que de ce rendez-vous divin qu'a eu cette femme, de cette rencontre qui va bouleverser sa vie, elle ne va plus être la même. On sent que cette femme est comme triste, mais elle va rencontrer celui qui peut la rendre heureuse. Elle va, en fin de compte, elle va trouver celui qui peut bouleverser, changer sa vie. Il va avoir une conversation entre cette femme et Jésus. Jésus va l'amener dans le terrain de la foi. Jésus va la conduire à ce qu'elle avoue ses péchés. Cette femme-là va être sincère avec Jésus. Parce que quand Jésus, à un moment donné, lui dit, va chercher ton mari, elle va dire, mais ce n'est pas mon mari, c'est mon compagnon. Et ça, le Seigneur, il apprécie quand on est vrai devant lui. Et le Seigneur va toucher son cœur, va faire quelque chose d'extraordinaire. Et quand on regarde la fin de ce récit, on voit que de ce rendez-vous divin, cette femme n'est plus la même. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une transformation qui s'est faite. Cette femme, elle voulait voir personne. Et tout d'un coup, quand Jésus touche son cœur, quand Jésus lui parle, elle veut voir tout le monde. Jean 4, versets 28 à 29. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» On sent à la fin de ce dialogue, de ce récit, que cette femme, elle a trouvé le bonheur, elle a trouvé la joie. Tu peux ressortir de ce lieu avec le véritable bonheur et la joie. Alléluia. Cette femme-là n'est plus la même. Elle est venue tout triste. Et peut-être que cet après-midi, tu es venue tout triste. Mais tu peux ressortir de ce lieu avec la joie d'avoir fait la rencontre avec le Fils de Dieu. Pas un Dieu mort, pas une idole, mais le Dieu vivant et vrai, Jésus-Christ. Cette femme a été complètement transformée. Mais tous n'ont pas eu la même réaction. Malheureusement, je dirais. Et j'aimerais parler de cette deuxième personne que nous pouvons lire dans Matthieu 19, versets 16 à 22. Il nous est parlé d'un homme riche. Le jeune homme riche. Et on va faire la lecture. Matthieu 19, versets 16 à 22. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ici, comme je le disais, nous voyons un jeune homme avoir également un tête-à-tête avec Jésus. Ce jeune homme est plein de bonne volonté. Il entend parler de Jésus. Il a sûrement dû entendre parler de tout ce qu'il faisait, les miracles qui se produisaient. Ce jeune homme était riche, c'était un chef de la synagogue, un religieux, un haut placé. Et c'est vrai qu'il est plein de bonne volonté. Je veux voir ce Jésus. Je veux rencontrer ce Jésus. Et bien sûr, il va avoir une conversation entre Jésus et ce jeune homme. Ce jeune homme va avoir un tête-à-tête également avec Dieu. Ce jeune homme a voulu épater Jésus par ses œuvres. Il va lui poser une bonne question, une excellente question. Il va dire à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il croit en la vie éternelle. Il croit en la vie après la mort. Et il lui pose cette question. Il s'attendait sûrement à une autre réponse de Jésus. Parce que quand Jésus l'amène sur le terrain de la loi, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tout ce qui s'ensuit, comme nous l'avons lu. Cet homme-là, il dit, je fais tout cela. Il pensait que Jésus allait lui dire, mais la vie éternelle, toi, chef de la synagogue, toi, le grand religieux, mais tu as une place en or là-haut dans le ciel. Sûrement qu'il s'attendait à entendre cette réponse de Jésus. Mais Jésus ne va pas lui donner cette réponse-là. Jésus cite la loi et il oublie un commandement. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Cet homme-là était quelqu'un de bien, mais il lui manquait l'essentiel. Cet homme-là, il avait un Dieu, mais pas le Dieu de la Bible. Il aimait Dieu, mais pas plus qu'une idole qui s'appelle Mammon. Ce jeune homme-là, religieux, aimait plus le pouvoir, la richesse, le Dieu Mammon que le Dieu véritable. Mammon, le Dieu de ce siècle, on tue aujourd'hui pour le pouvoir et l'argent. On fait des misères à des enfants à cause de l'argent. Et Jésus, quand il va voir ce jeune homme riche, il va toucher le point sensible. Jésus touche toujours le point sensible. Ce jeune homme, Dieu n'a rien contre la richesse matérielle. Mais si la richesse matérielle passe avant Dieu, là oui. Et Jésus va toucher son point sensible. C'est vrai que tu ne tues point, c'est vrai que tu ne dérobes point, c'est vrai que tu honores ton père et ta mère. C'est vrai. Mais tu aimes plus Mammon que moi-même. Vous savez, la femme samaritaine, quand Jésus l'interpelle sur sa vie, elle est vraie devant lui. Oui, c'est vrai, tu as raison. On sent un changement. Mais vous savez, cet homme-là, ce jeune homme riche, on sent qu'il ne veut pas changer, qu'il ne veut pas laisser toutes ses richesses ici-bas sur cette terre. Pourtant, Dieu lui fait une promesse d'une richesse beaucoup plus grande. Vends tout ce que tu as et tu auras un trésor là-haut dans le ciel. Tu auras la vie éternelle. Tu auras le paradis, les chants des anges. Parce que ça existe. Il y croyait, lui. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Personne ne peut être parfait. Mais s'il aurait courbé son cœur, l'or de la vie éternelle, de la mort après la vie, il aurait eu un trésor extraordinaire là-haut dans le ciel. Et c'est ce qui nous attend. Pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ en tant que leur sauveur personnel. Cet homme est complètement différent de cette femme samaritaine. Quand on lit ce texte-là, on sent qu'il est plein de bonne volonté. On sent qu'il est heureux. On sent qu'il est joyeux de rencontrer Jésus. Mais il repart de ce tête-à-tête tout triste. Je prie le Seigneur, je prie vraiment le Seigneur que vous ressortez de ce lieu non pas tout triste, mais tout joyeux. Parce que le Seigneur touche le point sensible. Pour ce jeune homme, c'était la richesse. Mais peut-être que pour toi, le point sensible, c'est autre chose. C'est peut-être des liens qui sont là, comme l'alcool. C'est peut-être les plaisirs de ce monde. C'est peut-être les sorties. C'est peut-être ta voiture. Eh oui. C'est peut-être la pêche. C'est peut-être ton travail. Alors ne dites pas, oh, le pasteur il a dit de ne pas travailler. Hein. Non. Quel est le point sensible qui prend la place de Dieu dans ta vie, dans ton foyer? Quel est le point sensible? Jésus touche le point sensible, mais sois vrai devant lui. Seigneur, oui, j'ai un problème avec la cigarette. Seigneur, oui, j'ai un problème avec l'alcool. Seigneur, oui, j'ai un problème avec les hommes ou avec les femmes. Mais viens à mon secours. Ça n'a pas été le cas de ce jeune homme. Il ne voulait pas abandonner. Et il va partir tout triste. Je me souviens toujours de cet homme qui venait aux réunions, Il entendait l'évangile et l'Église priait pour que le Saint-Esprit puisse toucher son cœur. Et un jour, à la fin, il vient me voir et me dit, « Pasteur, j'ai tout compris. » « Ah, enfin, » j'ai dit. « Peut-être qu'il va passer par les eaux du baptême. »« J'ai tout compris. Vous ne me verrez plus. Hein? » « Comment ça ? Vous ne me verrez plus. » J'ai compris. Si je dois accepter Jésus-Christ, je dois abandonner mes affaires. Je dois abandonner mon train de vie et de cet argent malhonnête que je gagne. Il a été franc. Il ne voulait pas l'abandonner. Oh Seigneur, touche-le pour qu'il réalise vraiment le trésor que tu lui accordes dans le ciel, Seigneur. Je ne l'ai plus jamais revu. Ce jeune homme est reparti tout triste parce qu'il n'a pas accepté Jésus d'abandonner son péché et de suivre le chemin, de suivre comme nous l'avons chanté ce chemin, sur le chemin va sans peur car il y a la main de Dieu. Cela me fait dire qu'à l'époque, les religieux, ce jeune homme riche était religieux, ils attendaient le Messie, ils attendaient ce rendez-vous divin. Ils attendaient un sauveur, un libérateur. Mais vraiment, ce jeune homme, si on peut adapter un verset de la Bible, c'est Jean 1, verset 11, il est venu chez les siens et ils ne l'ont point reçu. Et aujourd'hui, ils attendent encore ce rendez-vous divin, alors que Jésus est venu il y a 2000 ans. Ne passe pas à côté de ce rendez-vous. Ne passe pas à côté cet après-midi de l'appel de Dieu pour toi. Il t'appelle par ton nom, il te connaît. Peut-être qu'il touche ton cœur, peut-être qu'il touche le point sensible, mais ne résiste pas à Dieu. Tu as tout à gagner. Je vais continuer et parler d'un troisième. Une troisième personne, je vois que le temps avance. Cet homme a eu également, c'est un homme, ce privilège. Ce n'était pas un samaritain ni un religieux, mais un romain haut placé. Lui également, il y a eu un tête-à-tête, une conversation avec Jésus. Alors qu'on amène Jésus pour le crucifier, Ponce Pilate va avoir ce tête-à-tête avec Jésus. Ce rendez-vous divin. Et bien sûr, pour ceux qui ont la parole de Dieu, nous connaissons que face à la pression de la foule, Ponce Pilate est l'image de l'homme qui ne prend pas position. Des personnes qui viennent et qui viennent et qui viennent écouter le bon message de l'Évangile. Et qui ne prennent pas position face à la pression de la foule. Quelle est la pression qui t'empêche de prendre position et de t'engager dans les eaux du baptême? Ponce Pilate va dire cette phrase. Je cherche le verset. Matthieu, chapitre 27, pardon, verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains à présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Il ne prend pas position. Quand j'étais à Lyon, un historien m'a raconté que Ponce Pilate, bien des années plus tard, il est parti de Jérusalem. Il est allé en Suisse. Et il y a un mont qui s'appelle le Pilatus, mont Pilatus. Et il est dit qu'un soldat un jour voit Ponce Pilate sur le bord d'un lac, en train de se laver les mains, en train de se laver les mains pendant des minutes. Et le soldat, interpellé par cela, va dire, « Mais qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de m'enlever le sang de cet innocent. » Quelle va être ta position cet après-midi ? Comme je le disais en introduction, Dieu vous lance un rendez-vous cet après-midi, mais il a lancé bien des rendez-vous auparavant. Le premier rendez-vous que Dieu a lancé pour l'humanité entière, il y a 2000 ans de ça, le rendez-vous le plus important de l'histoire de cette planète, de l'histoire de l'humanité, il y a 2000 ans, Dieu a donné rendez-vous à l'humanité entière en envoyant son Fils, parce que nous sommes tous pécheurs et que notre destinée, c'est la mort éternelle, l'enfer. Mais Dieu veut pour toi la vie éternelle. Et comme il t'aime, comme il veut te sauver, comme il a la puissance et le pouvoir de pardonner tes péchés, il a accepté le rendez-vous, ce rendez-vous. Il est parti de son ciel de gloire. Il est venu ici-bas sur cette terre. De partout où il allait, il se passait quelque chose. La femme samaritaine et bien d'autres encore. Cette femme qui a touché le bord de son vêtement et qui a été guérie instantanément. Il savait que sa destinée, c'était la croix. Ce rendez-vous terrible avec la mort, avec les puissances des ténèbres. Il a été tenté à ne pas y aller. Vous savez, comme moi au dentiste, mais lui, ce n'était pas une roulette, lui. Lui, c'était des clous, des crachats. La moquerie pour toi cet après-midi. Il a eu un rendez-vous avec la mort. Et il y est allé à ce rendez-vous. Il a été fidèle jusqu'au bout. Ce rendez-vous, il était terrible, mais il y est allé. Et de ce rendez-vous, il est sorti vainqueur, alléluia. Je vais revenir un peu plus tard, ce sera ma conclusion, sur le fameux rendez-vous de la mort. Mais avant ça, et ça c'est pour nous, les croyants, j'ai bien aimé ce petit cœur que Stéphane a chanté sur le chemin à sans peur et le dernier couplet. Un jour, Jésus reviendra. C'est le rendez-vous que Dieu laisse à son Église. Un rendez-vous divin où ceux qui ont accepté Jésus-Christ iront dans le ciel à sa rencontre. Le retour de Jésus-Christ. Dieu n'est pas menteur, il est fidèle jusqu'au bout. Beaucoup de gens rigolent, se moquent. Il y a même des humoristes qui se sont moqués du retour de Jésus. Pour ne pas les citer, je ne les citerai pas, des inconnus. Plein de choses qui sont là, on prend à dérision cela, comme au temps de Noé. On se moquait, on rigolait. Pourtant, Jésus revient, alléluia. Il va revenir avec puissance chercher son Église. Quel rendez-vous divin. J'étais content hier matin à la rencontre des aînés. Parce qu'un jour, à l'église d'Embrun, j'ai dit, mais quand Jésus va revenir, moi j'ai un petit problème. Alors tous, ils me regardaient avec des yeux. Et oui, parce que j'ai le vertige. Et pour ceux qui étaient là hier matin, Dieu a répondu. Parce que le pasteur a dit, mais vous savez, quand Jésus va revenir, si vous avez peur du vertige, il n'y a pas besoin d'avoir de vertige, parce que là, il n'y aura plus de vertige. J'ai dit, ah Seigneur, tu me rassures, tu m'as parlé. On sera pris. Quel jour glorieux. Et le troisième rendez-vous, où celui-là, on va être fidèle, même si on ne veut pas, et ça sera ma conclusion, c'est la mort. Comme la naissance, ça. On ne choisit pas. On ne sait pas quand. Là, je suis en train de vous prêcher, mais demain, je ne sais pas si je serai là. La mort, elle frappe. La mort est fidèle. La mort, elle est là. Et elle frappe, elle est fidèle. La mort qui terrorise beaucoup de personnes. On essaie de faire reculer la mort. On a peur de la mort. Et c'est normal. Mon épouse avait une grande peur de la mort. Elle se posait beaucoup de questions. Qu'y a-t-il après la mort? Suis-je sauvé? Mais le jour où elle a rencontré Jésus-Christ, alléluia, ce rendez-vous avec la mort est un rendez-vous divin, alléluia, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. C'est le ciel qui nous attend, le paradis qui nous attend. Parce que Jésus a vaincu la mort, parce qu'il est ressuscité et présent au milieu de nous cet après-midi par son esprit. Quelle va être ta réaction cet après-midi? Comment allez-vous ressortir de ce lieu? Comme la femme samaritaine, joyeuse d'avoir rencontré Jésus. Joyeuse de dire, oui, j'ai été pardonné de mes péchés. Oui, je te veux, Seigneur. Parce qu'on m'a prié pour ça tout à l'heure. Ou vas-tu être comme ce jeune homme riche? Ah, c'est pas vrai ce qu'il dit. Mais enfin, tout triste. Abandonne ce qui te retient de t'approcher de Jésus. Ou vas-tu être comme Ponce Pilate? Tu vas te laver les mains, tu dis, oh, je suis jeune. Ou moins jeune. J'ai le temps de prendre position pour le Seigneur. J'ai le temps. Mais demain, tu ne sais pas si tu seras là. Parce que demain, ça peut être trop tard. De plus tard, ça peut être trop tard. Mais Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Quelle va être ta réaction cet après-midi? Parce que moi, je le crois de tout mon cœur. Cet après-midi, c'est un rendez-vous divin pour toi. Un rendez-vous avec la paix, la joie, le bonheur. Si tu laisses rentrer celui qui peut faire une œuvre extraordinaire dans ta vie. Ça peut être même un rendez-vous, et croyez-le de tout votre cœur, avec la guérison. Peut-être que tu es venu ici dans ce lieu malade, tu peux ressortir guéri par la puissance de Jésus. Croyez-le, il est toujours le même. Nous voulons voir la puissance et la gloire de Dieu à l'œuvre. Seigneur, touche des cœurs cet après-midi. Que des gens prennent position, Seigneur, pour toi. Sauve, mais guéris également avec puissance, Seigneur. Prions ensemble. Jésus de Nazareth, sois béni, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous cet après-midi, Seigneur. Seigneur, merci parce que toi, tu es fidèle à tous tes rendez-vous. Et dès qu'on parle de toi, le premier concerné, tu es là, Seigneur. Tu connais tous les cœurs, Jésus. Tu connais toutes choses, toutes les situations. Tu connais les cœurs tristes également. Seigneur, s'il te plaît, touche les cœurs. Apporte la joie. Cet après-midi, le Seigneur te lance cette invitation. Ouvre ton cœur à la grâce infinie. Arrête de lui résister. Arrête de lui tenir tête. ou arrête de reporter cet appel divin. Accepte-le comme ton sauveur personnel. Il frappe à la porte de ton cœur cet après-midi. Vas-tu lui ouvrir la porte ou vas-tu lui fermer et partir? Je t'en supplie, je t'en supplie. Ouvre ton cœur à Jésus cet après-midi. Fais la paix avec Dieu au travers de Jésus. Laisse-le peut-être toucher ton point sensible et donne-lui ton point sensible. Il a tout porté à la croix. Il a porté tous tes points sensibles, ton péché, tes liens, tout. Accepte-le. Tu peux ressortir de ce lieu avec la joie d'avoir fait cette rencontre avec le Dieu vivant et vrai. Seigneur, je t'en supplie, agis. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.